Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes bien sur Radio Girafe Normandie. Je suis Frédéric, le F de Girafe. Et je suis très heureux de vous retrouver pour mon émission Autour d'eux, autour d'eux. Autour de sujets, comme vous le savez, de formation, d'éducation et de transmission des savoirs. Et je suis ravi, dans ce nouvel épisode, aujourd'hui consacré à l'EM Normandie, grande école de management, de recevoir Léa Lassara, la nouvelle présidente du conseil d'administration de l'EM Normandie, et Anne-Sophie Courtier, la nouvelle directrice générale de l'EMN. Chère Léa, chère Anne-Sophie, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté ce rendez-vous, de prendre un peu de temps sur vos agendas pour échanger avec nous donc sur l'EM Normandie, grande école, comme je le disais, dont la légitimité repose sur une belle et longue histoire, une école multi-accréditée, présente sur plusieurs campus en France et à l'étranger. Vous nous en direz un certain nombre de quelques mots là-dessus. Vous venez donc toutes les deux de prendre vos nouvelles fonctions. Pouvez-vous présenter brièvement vos parcours et puis surtout ce qui a motivé votre volonté de rentrer dans cette belle aventure et de faire partie de cette grande famille EM Normandie. Léa.
Oui, bien sûr. Alors moi, je suis chef d'entreprise dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration, après avoir dirigé pendant 10 ans une belle PME familiale. Mmh. Et puis, j'ai eu aussi l'occasion d'avoir des mandats extérieurs, notamment présidente de la Chambre de commerce et d'industrie Saint-Estuaire, qui a un gros périmètre, et puis de fonder le réseau Femmes et Challenge pour booster la mixité en entreprise. Et j'ai eu des projets entrepreneuriaux qui ont fait que je ne pouvais pas avoir de nouveaux mandats. Je suis dans des conseils d'administration, tout ça, mais en tout cas, de me consacrer à un nouveau mandat. Mmh. Et puis, mon dernier bébé, qui s'appelle La Grande École au Havre, a ouvert. Mmh. J'ai bossé dessus. Et puis, à un moment, quand on m'a proposé de prendre la présidence de l'EM Normandie, je crois que c'était le bon moment et surtout un énorme coup de cœur. C'est une école que je connais, puisque ça fait 10 ans que je suis au conseil d'administration. Mais je savais que prendre la présidence du conseil, c'était une autre mission.
Une autre façon de aborder le sujet.
Et y a beaucoup de choses qui me plaisent dans cette école. D'abord, je dirais la philosophie de bosser pour l'intérêt général, que j'ai connue quand j'étais à la CCI, et c'est vraiment ça. Dans un environnement avec des étudiants, des jeunes, qui pour certains l'âge de mes enfants, tout ça, et je trouve ça incroyable. Mmh. Avec, et on aura peut-être l'occasion d'en reparler, une directrice générale, et je l'ai fait aussi parce que je savais que Anne-Sophie était la directrice générale et que ça me plaisait bien d'avoir ce binôme. Et parce que c'est une école incroyable, c'est une pépite et que j'ai beaucoup de chance et je suis très honorée d'en être la nouvelle présidente.
Les motivations sont très claires. Et on a bien compris que vous étiez une femme d'entreprise et une femme de conviction et d'engagement, et ce qui a fait peut-être la jonction avec cette volonté d'intégrer l'EM.
C'est ça.
Merci. Anne-Sophie.
Oui, alors moi j'ai rejoint l'école il y a un petit peu plus de 18 mois en tant que directrice des programmes. Mon parcours est un parcours qui est très académique depuis 25 ans dans l'enseignement supérieur et la recherche. Donc cette direction des programmes, lorsque je suis arrivée, c'était une suite logique de ce parcours. J'ai toujours exercé en Normandie, et la Normandie, je pense que c'est vraiment ma terre d'attache et un ancrage territorial très fort. Et puis lorsque j'ai été nommée à la direction générale, c'était là aussi vraiment la continuité avec un coup de cœur professionnel pour une école qui est un diamant brut, qui est une vraie pépite, avec une réputation au niveau national et international qui n'est plus à faire, vraiment une réputation très très forte et très positive. Et puis une école qui est avant tout normande, française et internationale, mais avant tout normande. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît aujourd'hui, un élément clé dans votre volonté
de rejoindre. Exactement. Et justement, puisqu'on parle de l'EM, est-ce que vous pourriez nous donner quelques éléments de description un peu plus précis, nous donner peut-être quelques points clés à retenir, des chiffres, éventuellement pas trop, mais quelques-uns?
Alors, l'EM Normandie, c'est une école qui a 154 ans d'histoire, premier élément chiffré. Et
important.
Ça, c'est la deuxième plus ancienne école de commerce en France. Et ça doit être vraiment un élément différenciant, parce que c'est notre héritage.
Évidemment.
C'est important. Ensuite, ce sont 6500 étudiants répartis sur nos 6 campus, puisque nous avons 6 campus. 2 campus en Normandie, au Havre et à Caen. Une ouverture à Clichy il y a quelques années, en banlieue parisienne. Et puis, des ouvertures à l'international. international, d'abord Oxford, puis Dublin, puis Dubaï. Donc vraiment une école qui est à la fois normande mais avec une résonance internationale très forte. Et puis ce sont 450 collaborateurs, 150 enseignants-chercheurs qui sont un vrai vivier et un vrai moteur aujourd'hui pour notre école. Plus toutes les accréditations nationales et internationales. Et ça, c'est un élément que je glisse ici, mais pour les parents, en période de Parcoursup, c'est vraiment un élément à scruter à la loupe, évidemment. Les accréditations des écoles que vous choisissez pour vos enfants.
Tout à fait. En ce qui concerne les éléments différenciants, vous évoquiez l'antériorité historique. Est-ce qu'il y aurait d'autres points de différenciation par rapport à d'autres écoles de management ?
Alors effectivement, il y a d'autres points de différenciation, des points qui sont des points plutôt d'expertise et puis ensuite des savoir-faire. Des points d'expertise sur, par exemple, une dimension maritime et portuaire. On est au Havre, on est tourné vers
la mer.
Voilà, la mer, vers l'océan, vers les continents et vers l'aventure. Donc un ancrage effectivement très tourné maritime portuaire, mais beaucoup plus au-delà de ça. Et puis un savoir-faire au niveau du suivi très attentif de nos étudiants, avec des dispositifs qui permettent à des étudiants qui ont des spécificités, ils sont salariés, ils sont chefs d'entreprise, ils sont aidants familiaux, ils sont sportifs de haut niveau, réservistes, etc., d'avoir un parcours vraiment à la carte pour eux. Et puis un savoir-faire au niveau entrepreneurial aussi, où on a toujours su vraiment développer cette patte, et l'arrivée de Léa est vraiment un atout très fort.
Le monde associatif, d'ailleurs je dis à ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent se reporter aussi sur une interview que j'ai faite à l'EM Normandie sur la vie associative, extrêmement intéressante. La vie associative contribue aussi peut-être à cette différenciation en apportant, et les étudiants les apportent eux-mêmes finalement, ces initiatives qui sont à la fois qui permettent à la fois de sortir de la dimension purement pédagogique, mais qui sont aussi des vecteurs d'acquisition de compétences.
Exactement, en fait c'est ce qui nous différencie de l'université notamment. C'est toute la vie associative. À l'école, il y a plus de 100 associations étudiantes sur des thématiques extrêmement variées, sportives, culturelles ou encore entrepreneuriales. Et c'est vrai que les associations, c'est un moyen pour nos étudiants de mettre en pratique ce qu'ils apprennent dans les cours. Parce que quand on est dans une association, on gère un budget, on recrute une équipe, on lève des fonds, on trouve des sponsors et on organise des activités. Et ça, ils l'apprennent de façon théorique dans les cours, des mises en situation, et ils le déploient dans les associations.
Et là, c'est du réel.
Oui, c'est du concret.
Si on prend un peu plus de hauteur et qu'on parle un peu de stratégie, quels sont les grands axes que vous pourriez souligner sur la stratégie de l'école actuellement ?
Alors la stratégie de l'école aujourd'hui, je pourrais la résumer en trois mots: grandir plutôt que grossir.
C'est très clair.
Nous sommes une école qui repose sur trois valeurs: l'authenticité, l'engagement et l'audace. Et cette audace, elle a été déclinée à plusieurs moments dans l'histoire de notre école. Et aujourd'hui, à un moment où les écoles connaissent un virage dans cet environnement concurrentiel très fort, eh bien, nous avons eu l'audace, j'ai envie de dire, de ne pas suivre le même plan stratégique que nos concurrents, qui ont tous un plan stratégique qui vise à vraiment faire grossir leur école en effectif étudiant. Nous avons fait le choix de ne pas augmenter l'effectif étudiant.
C'est la question subsidiaire que j'allais vous poser.
Importante.
Votre objectif n'est pas d'aller au-delà des 6500 étudiants dont vous parliez.
On a 6500 étudiants aujourd'hui.
Près,
et voilà, l'objectif est d'atteindre 7000, mais pas plus.
Pas plus.
Pas plus, parce que je voudrais vraiment qu'on se concentre sur nos étudiants. Nos étudiants en tant qu'individus, en tant qu'êtres humains, nos étudiants sur leur bien-être, sur leur satisfaction, pour leur offrir vraiment un enseignement d'une de très grande qualité, ce que nous avons déjà, et puis aussi un service. Un service, nous sommes une école, mais nous sommes aussi au service de nos étudiants pour les faire grandir. Et ça me semble essentiel, une satisfaction 5 étoiles pour nos étudiants.
Faire une grande école, ça n'est pas simplement suivre un parcours de formation, c'est de vivre une expérience globale.
Exactement. Être accompagné sur la construction de son projet professionnel. Nos jeunes qui nous rejoignent, ils sortent du bac, ils ont 18 ans. Ils ne savent pas qu'ils veulent faire. Et c'est normal de ne pas
bien
savoir.
Sûr,
par contre, c'est notre métier de les accompagner dans cette construction.
On est d'accord. L'école, donc, vous le disiez, a plusieurs campus en France et à l'étranger. Est-ce que vous avez cette approche un peu interculturelle qui permet de nourrir justement cette stratégie par les expériences vécues sur les campus, notamment internationaux ?
Alors oui, tout à fait. Dans le parcours de tous nos étudiants, il y a à minima un semestre, donc 6 mois, d'expatriation, soit sur nos campus, soit chez l'un de nos 250 partenaires à l'étranger. Cette expatriation, elle fait partie de l'ADN de l'école. C'est une école internationale, l'EM Normandie, malgré son nom Normandie, mais qui est dans notre patte.
Qui est ouverte au monde. Ouais.
C'est essentiel parce qu'on se nourrit de ce qu'on va découvrir ailleurs. Sur nos campus, nous avons un accompagnement qui est très fort avec l'écosystème entreprise locale et aussi un écosystème avec les étudiants des autres universités à côté de Dublin, à Dublin à côté de notre campus, à Oxford et à Dubaï. Et là, c'est extrêmement riche pour eux d'aller à la rencontre des autres étudiants, des entreprises et de s'imprégner de la culture locale.
Et sachant que les attentes ne sont pas forcément les mêmes, mais ce qui vous permet d'avoir une complémentarité par rapport à ces expériences sur l'enrichissement des contenus et des parcours et des projections de carrière pour les étudiants qui sortent de l'école.
Complètement. Ils apprennent sur la culture, la culture au niveau héritage du pays, mais aussi la culture d'entreprise.
C'est ça.
La façon de travailler
qui n'est pas
la même partout.
Ouais, oui.
Donc ça, c'est très riche.
C'est très important. Léa, si vous voulez bien, en tant que nouvelle présidente, même si vous étiez, comme vous le disiez, déjà dans le conseil d'administration depuis un moment, mais à ce poste évidemment clé en tant que présidente, quel est le rôle que vous entendez faire jouer au conseil d'administration dans une grande école comme l'EM Normandie?
Oui, j'ai pris la présidence il y a 3 mois, donc effectivement, c'est bien récent. Et comme je le disais, c'est pas tout à fait pareil d'être 10 ans au conseil d'administration et en tant que présidente. Donc je découvre l'école un peu chaque jour, un peu plus. Et le rôle du conseil, d'abord, je suis bien entourée. Donc ça, c'est un point important avec des administrateurs qui souhaitent s'investir pour l'école, pour certains qui sont là depuis longtemps également et qui sont très investis, d'autres qui sont beaucoup plus récents. Et le rôle d'un conseil d'administration, c'est de co-construire une stratégie et avec la direction générale, bien sûr. Et ensuite de voir où en est cette stratégie et de suivre son déploiement, pas dans l'opérationnel, mais plutôt de voir comment aussi les compétences des membres du conseil d'administration peuvent aider la direction générale et l'équipe d'Anne-Sophie à mettre en place ce qu'il faut. Et puis, on est un peu comme dans une entreprise, même si c'est une école, et donc c'est pas toujours comme on a prévu que ça allait être. Donc il y a forcément des aléas qui peuvent être complètement différents du fonctionnement de l'école. Et donc on est là aussi. On se doit d'être présent au moment clé pour aider encore une fois et rediscuter si nécessaire. De points de la stratégie, pas les points généraux et les plus importants qu'Anne-Sophie a mentionné et sont dans sa stratégie, mais plutôt sur des détails et puis encore une fois partager et accompagner pour que l'école, Anne-Sophie disait, c'est une pépite, t'as une expression un diamant brut, c'est ça, et j'aime beaucoup, et c'est tout à fait ça, et donc c'est parce que c'est énormément de travail, énormément de projets. Anne-Sophie, elle a des projets partout avec ses équipes, et donc comment on peut accompagner au mieux pour réaliser les objectifs, parce que c'est bien ça qu'on souhaite faire.
Évidemment. Et en parlant d'objectifs, est-ce que vous, du côté du conseil d'administration, mais on a compris en collaboration avec la direction opérationnelle, est-ce que vous avez un ou deux sujets, sans trahir de grands secrets, un ou deux sujets, là, sur les prochains mois, sur lesquels vous souhaitez vraiment mettre l'accent entre le conseil d'administration, dans la collaboration conseil d'administration, direction générale?
Je pense que là, c'est un peu récent, c'est-à-dire que Anne-Sophie a donné les souhaits. Nous, ce qui nous plaît beaucoup, Anne-Sophie nous a présenté ça quand elle a pris la direction générale, c'est de dire aller autour de l'excellence académique et d'aller plus sur la qualité que la quantité. Et évidemment, nous, parce qu'on y croit beaucoup pour l'école, évidemment, notre fort intérieur peut-être aussi en tant que parents ou grands-parents pour certains, tout ça, de dire bah oui, on a envie que que les jeunes qui sont là, les étudiants, ils soient choyés, parce que en fait, ce qui compte aussi, c'est leur ouverture d'esprit, l'agilité qu'ils auront pour pouvoir trouver, avoir la carrière qu'ils souhaitent et avoir tout ce qu'il faut. Donc nous, encore une fois, je dévoile pas un secret puisqu'Anne-Sophie vient d'en parler, mais on suit ça beaucoup. Mmh. Bien sûr, il y a aussi des éléments financiers. Parce que on est aussi dans un contexte économique mondial national qui
un
fait que on doit suivre ça, puisque l'école doit aussi c'est une association, mais elle doit aussi alors pas dégager des bénéfices puisque c'est pas comme ça, mais en tout cas avoir l'argent nécessaire pour continuer d'investir. Et donc le conseil d'administration regarde bien sûr tous les éléments financiers, même si Anne-Sophie suit ça de très près et il veille forcément fortement.
C'est un sujet qu'on n'a pas abordé d'ailleurs, qui est déterminant par rapport à ce que vous dites, Léa, en lien avec la situation complexe de la société aujourd'hui et de ce qui se passe aussi dans le monde. J'imagine que vous avez une politique sociale, d'ouverture sociale très forte. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, Anne-Sophie ?
Alors effectivement, on a une politique d'ouverture sociale très forte. Vous le disiez, Frédéric, on est dans un contexte qui est très changeant. Un contexte qui est un peu morose sur le plan économique, puisqu'il y a une vraie crise du pouvoir d'achat de la part des familles. Un contexte économique côté entreprise qui n'est pas très très simple. Nos écoles qui sont percutées par l'IA. Et ça, l'IA, c'est un vrai sujet, parce que les entreprises, nous, en école, notre job ne s'arrête pas à la formation. Il faut que nos étudiants soient employables par les entreprises derrière.
Évidemment.
Et les entreprises se posent beaucoup de questions aujourd'hui, à la fois sur l'aspect économique et sur l'aspect IA. Voilà. Quel type de profil recruter demain,
etc. Ce sont des changements d'environnement,
etc.,
métier terribles à appréhender.
Tout ça fait que sur la politique sociale, on a ça en tête. Nous sommes une école de commerce qui n'a quasiment pas de subvention de l'État. Donc, les frais de scolarité sont indispensables. Ils sont indispensables. Pour autant, il y a une vraie réflexion autour de ces frais de scolarité. Et là, je tiens à préciser que pour l'année prochaine, nous sommes la seule école de commerce à ne pas augmenter nos frais de scolarité. Ça, c'est important. Dans un contexte concurrentiel où tout le monde augmente, nous sommes les seuls à ne pas augmenter. C'est un choix. C'est un choix délibéré pour accompagner les familles. Et nous avons toujours une place très importante qui est accordée à nos étudiants boursiers. Nous avons de très nombreux étudiants boursiers, tous échelons confondus, de l'échelon 1 jusqu'à l'échelon 7. De nombreux étudiants boursiers qui nous rejoignent. Et puis, nous restons, même si le contexte est compliqué, nous restons l'école qui a le plus grand nombre de places en alternance.
Oui.
Et ça, c'est aussi un levier financier parfois
clairement.
Pour financer ces études. Donc cette politique sociale, elle se joue à plusieurs niveaux qui sont ceux-là.
Oui, ça ne peut pas être le critère premier d'un choix de formation, mais l'alternance, c'est effectivement l'apprentissage, c'est un levier extrêmement important pour permettre à tout le monde de pouvoir suivre les études supérieures dans une grande école sans avoir ce souci derrière de savoir comment on va la financer.
Alors effectivement, tous nos programmes sont en formation initiale et par exception, on peut les suivre en alternance. L'alternance doit être choisie pour des raisons qui sont le nerf de la guerre de l'alternance, c'est la professionnalisation. Je suis en entreprise, j'ai un projet, je veux vraiment mixer l'académique et l'entreprise au cours de ma formation. Mais on le sait, c'est aussi choisi par les familles pour des raisons financières.
Si on élargit un peu la focale, en gardant évidemment en ligne de mire l'EM Normandie dans ce grand écosystème des grandes écoles de management et des grandes écoles en général, peut-être d'ailleurs nous dire un petit mot pour ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que c'est qu'une grande école ?
Alors, ce qu'on appelle une grande école...
C'est pas une question de taille.
Ouais, une grande école, c'est pas une question de taille, c'est une question d'accréditation et de reconnaissance des diplômes. Le mot programme grande école n'est pas un nom protégé. Donc tout le monde peut l'utiliser. Mais sur le fond, une grande école, c'est une école qui bénéficie de la reconnaissance par l'État, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, de tous ses diplômes, ce qui est notre cas, et qui a des accréditations internationales. Nous avons les 3 accréditations internationales. Nous faisons partie du 1% des business schools dans le monde qui ont les 3.
Oui.
1% des business schools.
C'est pour ça que je disais que vous étiez multi-accrédité en introduction.
Voilà. C'est ça une grande école. Et ça... Ça doit résonner vraiment dans la tête de nos étudiants, nos candidats, nos prospects, les familles qui vous écoutent, parce que c'est la garantie de la reconnaissance du diplôme.
Exactement, et de l'employabilité derrière.
Voilà, et de l'employabilité.
Et l'appartenance aussi, alors ça c'est une conséquence, c'est pas un critère premier, mais à la conférence des grandes écoles, donc la CGE, qui réunit ces écoles qui ont ces accréditations et, voilà. ces reconnaissances.
La CGE, conférence des grandes écoles, qui est un petit peu notre, voilà, ce qui nous rassemble,
c'est la grande famille des grandes écoles.
Toutes les grandes écoles. L'université n'est pas dedans, bien sûr. Mais toutes les autres grandes écoles d'ingénieurs, de commerce, d'architecture, les Sciences Po, etc., sont membres de la CGE, tout comme nous.
Donc si on discute un petit peu, si on échange un peu sur l'écosystème des grandes écoles, comment vous décririez aujourd'hui l'écosystème des grandes écoles?
Oui. Alors l'écosystème et puis l'environnement, hein, c'est un environnement qui est très changeant. Qui est très changeant en cette rentrée de septembre 2025, très changeant parce qu'on est dans un environnement qui est percuté par les difficultés économiques qu'on mentionnait tout à l'heure, la crise du pouvoir d'achat, une crise économique au niveau national, un contexte aussi au niveau de l'international qui n'est pas simple, au niveau géopolitique, un contexte aussi où on a besoin, nous, de mondialiser nos programmes dans un contexte de démondialisation. C'est-à-dire qu'on constate un repli de plusieurs pays sur eux-mêmes. Alors même que nous avons besoin de recruter des étudiants internationaux et de faire découvrir cette expérience internationale à nos étudiants.
Vos étudiants, bien sûr.
C'est dans notre ADN. Donc ça, c'est pas simple. Et puis, un contexte nouveau avec... effet collatéral de cette crise économique, des recherches de financement par le gouvernement et donc une baisse du financement de l'alternance, ça impacte nos modèles économiques. Et puis enfin, je le disais tout à l'heure, l'arrivée de l'IA. Qui inonde absolument tout et qui aujourd'hui n'est plus une option, mais juste une évidence. Comment on prend ce virage en tant qu'école, comment on prend ce virage en tant qu'entreprise qui va recruter des jeunes étudiants. Et puis, on le voit, les étudiants se posent la question, est-ce qu'un diplôme, aujourd'hui, à l'ère de l'IA, a encore une valeur? Et la réponse est oui, bien évidemment.
Et alors, justement, sous quelle forme ces formations doivent, ou en tout cas, quelles transformations doivent-elles faire, selon vous? Pas pour la rentrée prochaine, évidemment, mais là, on s'inscrit dans du moyen ou long terme. Quelles transformations, selon vous, ces formations doivent opérer pour, justement, continuer de convaincre de leur utilité, de leur légitimité auprès d'étudiants dont les comportements, vous, à ce poste de direction générale d'une grande école, mais aussi par rapport à votre expérience sur les dépassé, votre observation sur justement les comportements des étudiants dans ce rapport avec le diplôme et puis ces transformations d'univers métier dues notamment à l'IA.
Alors en fait, moi ce qui me guide, c'est le fait de toujours dire à nos étudiants que l'IA ne va pas remplacer les personnes, mais la personne qui ne maîtrisera pas l'IA sera remplacée par l'IA. Ça c'est important et je vais juste utiliser un exemple parce qu'on pourrait faire un grand discours,
c'est peut-être plus parlant,
mais juste un exemple. Dans nos cours, un cours que je vais citer qui permet aux étudiants de travailler sur le business plan, faire le business plan d'une entreprise, eh bien le professeur va délivrer son cours, bien évidemment, parce qu'il faut savoir comment ça fonctionne, quels sont les éléments qui sont attendus. Mais ensuite on va demander à l'étudiant de faire travailler 5 IA différentes qui vont produire 5 business plans différents avec des éléments qui sont donnés par le professeur au départ. Puis on va demander à l'étudiant d'utiliser une 6e IA pour comparer les 5. Et ensuite, le travail de l'étudiant sera d'apprendre à avoir un esprit critique sur ce qui sera produit par cette IA. Et ça, c'est toute la transformation à la fois de nos formations, de notre façon d'enseigner, et puis surtout... qui va impacter directement le travail de l'étudiant demain. Demain, l'étudiant, il va utiliser l'IA pour produire quelque chose. Il doit apprendre à avoir cet esprit critique, et pour être en capacité de critiquer, d'analyser, il faut connaître le fond.
Évidemment.
Donc, connaître son cours, utiliser l'IA pour produire, et ensuite avoir cette analyse critique. Et c'est tout l'enjeu de notre école. Tout ça, c'est déjà en place dans nos cours.
C'est déterminant et c'est un message extrêmement important parce qu'on a en première lecture tout de suite ce réflexe de dire l'IA va tout faire à notre place. Non, on va faire autrement par rapport à l'IA.
On va faire autrement.
Merci beaucoup Anne-Sophie pour ces réponses. Pour terminer, quelles sont les ambitions de l'EM Normandie ? On revient donc à l'EM et Léa, évidemment, en tant que présidente du conseil d'administration, quelles sont vos ambitions donc à vous deux, nouvelle équipe dirigeante de l'EM, pour l'EM Normandie dans les 5 à 10 prochaines années ? Léa peut-être ou Anne-Sophie d'abord ?
Alors, l'ambition à très long terme, c'est de vivre encore 154 ans, puisque nous avons 154 ans d'histoire. Voilà, donc c'est beaucoup plus que 10 ans. À plus court terme, effectivement, l'ambition pour l'école, c'est de grandir plutôt que grossir, et surtout de toujours grimper dans les classements. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes une école qui est une vraie pépite, avec beaucoup de choses qui ne sont pas toujours visibles. Ouais. Et c'est peut-être le regret que j'ai aujourd'hui, et mon rôle, c'est de rendre toutes ces éléments extrêmement visibles. Sur notre territoire, le territoire du Havre, le territoire normand, à Caen également, mais aussi au niveau national et international. De faire connaître et mieux connaître notre école pour que nous puissions grimper dans les classements, parce que ça, c'est l'effet, la conséquence de tout cela, c'est de grimper dans les classements. Dans les écoles de notre écosystème aujourd'hui, directement concurrentes, nous sommes deuxième ou troisième.
D'accord.
Ben voilà, l'ambition, c'est d'être premier.
C'est parfait. Vous êtes déjà sur le podium, il n'y a plus que deux marches à grimper ou une. Merci beaucoup Anne-Sophie. Léa ?
Oui, il y a beaucoup d'ambition pour cette école et effectivement, tous les jours en fait, où je découvre l'école, je me rends compte qu'on fait beaucoup de choses dans cette école, incroyable, parfois seulement dans cette école et pas dans les autres, parce que vous pouvez compter sur moi pour faire un peu de benchmark. et peut-être, comme l'a dit Anne-Sophie, on ne fait pas assez savoir. Et l'idée, c'est de pouvoir mettre en avant, effectivement, tout ce que l'EM Normandie fait d'incroyable, que ce soit à la fois pour les étudiants, bien sûr, parce que c'est quand même les premiers concernés, mais aussi pour, puisqu'on parle d'économie aussi, pour les entreprises. Parce que c'est ça, en fait, nous, entrepreneurs, ce qu'on veut, c'est recruter des bons candidats qui ont l'esprit ouvert, enfin, en fonction de ce que l'on souhaite. Et donc, de faire savoir tout ce que l'EM Normandie fait de fantastique. Et puis, je dirais aussi, et là je prends cette partie un peu normande que je suis, Anne-Sophie étant aussi bien implantée en Normandie, comme elle l'a dit en introduction, mais je crois que l'EM Normandie, elle n'est pas, peut-être pas encore assez connue sur le territoire normand de façon assez étonnante, parce que pourtant on a quand même des milliers d'étudiants en Normandie. On est une école, vraie école normande, puisque entre Caen et Le Havre, avec deux campus sympas et bien avec tout ce qu'il faut au niveau encadrement et autres. Et donc de dire, on est une entreprise, et donc je vais m'y atteler fortement, on est une entreprise normande, et bien plutôt... Alors, à la fois, recrutons des candidats normands, parce que plus on recrutera des candidats normands et des candidats de l'EM, plus ils resteront sur le territoire, mieux c'est pour le territoire. Et puis, aussi, l'entreprise, elle peut faire beaucoup de choses pour son école, que ce soit sur Caen ou Le Havre. On a la chance d'avoir une grande école, et encore fois, il n'y en a pas tant que
partout,
ça.
Ouais.
Et donc, on peut prendre des alternants, on peut prendre des stages, on peut confier des missions, on peut verser sa taxe d'apprentissage. Beaucoup de choses qui sont très importantes pour une école, et on peut être ambassadeur de l'école.
Exactement.
C'est-à-dire que moi, j'invite tous les chefs d'entreprise à venir rencontrer Anne-Sophie ou moi, parce qu'Anne-Sophie aussi est très ouverte à ça, pour faire parler de l'école et pouvoir dire, il faut que vous connaissiez mieux l'école. Il y en a besoin.
Réciproque, exactement.
Pour l'école, bien sûr, mais aussi pour l'écosystème. Tout l'écosystème normand. Donc j'en profite là, parce que Radio Girafe,
même. C'est ce que j'allais vous dire. À la mesure de Radio Girafe, j'espère que cette chambre d'écho aura permis d'accroître un peu la visibilité, même si elle existe déjà, quand même. Vous êtes très modeste. Mais il y a du travail toujours.
Tout à fait.
Merci beaucoup, Léa. Merci beaucoup, Anne-Sophie, d'avoir accepté ce rendez-vous sur Radio Girafe Normandie. Et peut-être à très bientôt. J'étais donc ravi de recevoir Léa Lassara, la présidente du conseil d'administration de l'EM Normandie. Anne-Sophie Courtier, la directrice générale de l'EM Normandie. Merci beaucoup.
Merci Frédéric.
Merci.
Vous êtes sur Radio Girafe Normandie. Vous avez écouté Autour d'eux. Je suis le F de Girafe. Et n'oubliez pas de télécharger l'application sur Android ou Apple pour profiter de nos programmes. Merci à vous. À bientôt.